RFI 8h à Paris et Khartoum 6h à Accra et 2h à Ottawa.
RFI Matin.
L'heure du journal, bonjour Grégoire Morelli.
Bonjour Andréane, bonjour à toutes et à tous. Le suspect dans l'affaire du meurtre qui s'est déroulé dans une mosquée en France s'est rendu aux forces de l'ordre en Italie. Il était activement recherché depuis le drame de vendredi. Précision dès le début de ce journal. Nous serons aussi au Canada où les électeurs doivent se rendre aux urnes ce lundi pour des élections législatives anticipées. Élections où est donné favori l'actuel Premier ministre Marc Carney. Au Vatican, les cardinaux se retrouvent ce matin pour une nouvelle Congrégation générale. Objectif, se préparer au conclave. Nous serons en ligne avec notre correspondant à Rome dans cette édition. Enfin, presque 100 jours après le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, et déjà, les conséquences de sa politique économique se font sentir, notamment au Mexique, où de nombreuses villes exportent vers les États-Unis. En France, après le meurtre dans une mosquée ce vendredi dans le Gard, le suspect a été retrouvé. Bonjour Alexandra Cagnard.
Bonjour.
L'auteur présumé de ce meurtre s'est rendu aux forces de l'ordre en Italie.
Oui, il s'est rendu de lui-même, assure le procureur français d'Alès en charge du dossier, dans un commissariat de la ville de Pistoia, c'est en Toscane, près de Florence. Ce même procureur qui fait part ce matin de sa très grande satisfaction. Il n'avait pour seule issue que de se rendre, dit-il. L'homme était traqué depuis vendredi, jour des faits, par plus de 70 enquêteurs, policiers et gendarmes. Sa reddition a eu lieu ce dimanche vers 23h, précise Abdelkrim Grini. Jeune Français de 21 ans, né à Lyon, il était inconnu de la police et de la justice. Pour rappel, donc, l'attaque avait eu lieu vendredi à la mosquée de la Grande Combre, située dans le département du Gard. C'est dans le sud de la France. La victime, un jeune Malien habitué des lieux, et l'assaillant, qui lui n'y était a priori jamais venu, était seul dans la salle de prière. Le jeune homme s'était alors levé pour asséner plusieurs coups de couteau à la victime avant de le laisser pour mort. Son interpellation ayant eu lieu en Italie, un juge d'instruction va désormais être saisi et un mandat d'arrêt européen émis en vue de son transfert en France. Une marche blanche en souvenir d'Aboubacar Cissé dimanche après-midi au nord d'Alès avait rassemblé plus de 5000 personnes.
Alexandra Cagnard pour toutes ces précisions. Un mot de la France encore, où après les séries d'attaques contre les prisons et leur personnel ces dernières semaines, une vingtaine de personnes a été interpellée en région parisienne et dans les grandes villes de Marseille, Lyon et Bordeaux.
L'actualité de ce lundi, c'est aussi le Canada où l'on vote aujourd'hui.
Eh oui, élection législative anticipée que les libéraux emmenés par l'actuel Premier ministre Marc Carney devraient gagner. Le déroulé de la campagne a été rythmé par le conflit avec les États-Unis, un conflit qui a éclipsé les autres thèmes. Et la campagne s'est achevée, Marine de la Moissonnière, dans l'effroi samedi soir lors d'un festival à Vancouver. Un homme au volant d'une voiture a tué au moins 11 personnes.
Oui, un drame qui a conduit la plupart des candidats à modifier leur programme hier, mais un drame qui ne devrait pas avoir d'impact sur les résultats. La question principale pour les Canadiens, ça reste qui est le meilleur rempart face à Donald Trump. Une question tranchée depuis longtemps pour pas mal d'électeurs. Même si l'écart s'est un peu resserré ces derniers jours, les intentions de vote n'ont quasiment pas bougé tout au long de cette campagne éclair. Les libéraux de Marc Carney l'emporteraient avec 43% des voix contre 39% pour les conservateurs de Pierre Poilievre. Le CV, l'expérience internationale de l'actuel Premier ministre, ancien banquier d'affaires, ex-gouverneur des banques centrales du Canada et du Royaume-Uni, semble avoir convaincu. Pierre Poilievre, lui, se voit reprocher sa proximité avec Donald Trump, à la fois dans son style et dans ses idées. Insistant sur le coût de la vie, le chef du parti conservateur a promis d'être l'homme du changement après 10 années de pouvoir libéral, mais en réalité pour les Canadiens, pour l'instant, seule compte la menace que représente Donald Trump à leurs yeux.
Marine de la Moissonnière, envoyée spéciale de RFI au Canada.
Au Soudan, la guerre fait rage.
Eh oui, l'armée soudanaise du général Abdel Fattah al-Burhan affronte depuis 3 ans maintenant les forces de soutien rapide des paramilitaires commandées par le général Mohamed Hamdan Daglo, dit Emeti. Le 25 mars, les forces armées soudanaises ont annoncé la reprise de Khartoum des mains des FSR. Mais les combats continuent au sud et à l'ouest de la capitale, où des poches dominées par les paramilitaires demeurent. Les civils captifs des combats vivent un véritable cauchemar. RFI vous propose cette semaine une série de reportages exceptionnels dans la capitale soudanaise, des témoignages rares recueillis par notre envoyé spécial Gaël Lalex.
À Oumbada, dans la banlieue ouest de Khartoum, les habitants vivent au rythme des canons. Kafi Bourgane a 82 ans, il est à bout de force.
Quand on entend les bombardements, on se couche sous les lits pour se protéger. C'est terrorisant, c'est impossible de dormir. Jour et nuit, les FSR bombardent, puis l'armée bombarde. On ne peut pas fermer l'œil.
Samira Idriss a quitté sa maison du quartier d'Alara, encore tenue par les FSR. Avec sa famille, elle vit chez des proches à Oumbada. Malgré les tirs croisés, elle s'y sent plus en sécurité.
Les FSR venaient chez nous n'importe quand et ils criaient « Donnez-nous vos enfants, vos filles, tout ce que vous avez ». Et ils prenaient tout de force. Ils n'ont pas pris mes filles, mais mes voisins n'ont pas eu cette chance.
Les combats se rapprochent. Aïcha Mohamed Nourienne a décidé de partir. Ce jour, avec sa famille, elle quitte Oumbada et le logement de fortune qui les accueille.
Les FSR ont fermé les marchés. Il est très dur de trouver de la nourriture et il faut marcher des kilomètres pour l'eau. Nous sommes trois familles ici et nous ne pouvons pas rester. Les hommes sont partis chercher de l'eau et de la nourriture. On décidera ensuite où aller.
Comme plus de 11 millions de Soudanais aujourd'hui déplacés, la famille d'Aïcha s'installera dans une école d'Omdurman, transformée en camp de fortune. Gaël Lalex, de retour de Khartoum, Nairobi RFI.
Gaël Lalex qui toute la semaine vous propose une série de reportages exclusifs tournés à Khartoum. C'est à retrouver sur le site de RFI et notre application Pure Radio.
Le chef de la diplomatie belge, Maxime Prévost, arrivé hier à Kinshasa.
Au cœur de sa visite, réforme de l'armée congolaise et bien sûr la désescalade entre la RDC et le Rwanda. Dans cette région agitée des Grands Lacs, le diplomate belge compte renforcer l'appui de Bruxelles pour la paix. Maxime Prévost doit rencontrer aujourd'hui le président Félix Tshisekedi. Donald Trump a dit croire que Volodymyr Zelensky est prêt à renoncer à récupérer la Crimée occupée par la Russie, des propos tenus ce dimanche. Kiev a jusqu'à présent toujours exclu l'idée d'abandonner cette péninsule annexée par Moscou en 2014, mais le président américain a estimé que la position de son homologue pourrait changer. Washington, qui évoque également une semaine cruciale pour les négociations dans le conflit russo-ukrainien, désespoir exprimé par le secrétaire d'État Marco Rubio, alors que les combats sur le front ne donne aucun signe d'apaisement.
Des milliers de fidèles se sont recueillis dès hier sur la tombe du pape François dans la basilique romaine de Sainte-Marie-Majeure.
Ah oui, c'est là où il a été inhumé ce samedi. Une file ininterrompue depuis 7h du matin. Les cardinaux également sont venus prier sur la tombe du pape défunt. Des cardinaux qui se retrouvent ce matin pour une nouvelle congrégation générale afin de se préparer au conclave. Éric Sénanque, bonjour.
Bonjour Grégoire.
En direct de Rome pour RFI. Éric, c'est une phase cruciale qui s'ouvre pour le Vatican.
Oui, les 252 cardinaux, électeurs ou non, qui se retrouvent pour une cinquième congrégation générale depuis la mort du pape. Ils viennent de 71 pays différents et parmi eux, 134 ont moins de 80 ans. Ce sont eux qui rentreront dans la chapelle Sixtine pour élire le 267e pape, celui qui succédera à François. Alors la date d'entrée en conclave pourrait être annoncée ce lundi, on parle du 5 au 6 mai. Les premières congrégations de la semaine passée ont essentiellement été dominées par la préparation des funérailles du pape et le transfert de sa dépouille à Sainte-Marie-Majeure. Elle rentre aujourd'hui dans le vif du sujet, une phase de pré-conclave avec cette question dans toutes les têtes. Quel doit être le prochain portrait robot du futur pape? Chaque cardinal présent est invité à s'exprimer librement pour partager sa vision sur ce que doit être l'Église de demain, une phase plus politique qui est désormais ouverte. Quel héritage du pape François garder? Faut-il des ruptures? Parler de gouvernance de l'Église ou privilégier la pastorale? Autant de questions qui devraient être abordées. Et puis ces congrégations générales Grégoire ont aussi un autre objectif important pour tous ces cardinaux, mieux se connaître. Sur les 134 qui voteront lors du conclave, 108 n'ont jamais élu un pape. Certains viennent de pays où les catholiques sont très minoritaires.
Merci à vous Éric Sénanque, à Rome pour RFI.
Aux États-Unis, lors d'un premier bilan pour Donald Trump, après bientôt 100 jours à la Maison-Blanche.
Les premiers mois du président américain, marqués notamment par le déclenchement d'une guerre commerciale qui n'a épargné personne, pas même les voisins canadiens et mexicains, un séisme pour l'économie des villes frontières au Mexique, tout entière tournée vers l'exportation. Reportage à Ciudad Juárez de nos envoyés spéciaux, Natalia Olivares et Nathanaël Vitran.
Là, on est dans le quartier industriel de Ciudad Juárez, là où il y a toutes les usines, ces fameuses maquiladoras qui fabriquent essentiellement des produits à destination des États-Unis.
La fabrication Ici, on fabrique du matériel électronique, des pièces détachées pour les hélicoptères, les avions, pour le secteur automobile.
Jaime Torres, journaliste mexicain qui connaît parfaitement cette zone frontière.
Malheureusement, beaucoup de ces usines ont déjà quitté Ciudad Juárez. D'autres ont licencié une partie de leur personnel ou continuent de produire, mais au ralenti.
Les règles ont changé plusieurs fois depuis le retour de Donald Trump. À l'heure actuelle, les produits couverts par l'accord de libre-échange signé entre les États-Unis, le Mexique et le Canada en 2020 restent exemptés de tarifs douaniers. Pour les autres, soit la moitié des importations venues du Mexique aux États-Unis, une surtaxe de 25% s'applique. Marcelo Vázquez Tovar est délégué régional de l'Association des importateurs et des exportateurs du Mexique. S'il reconnaît que la situation est critique, il y voit aussi une source d'opportunités.
Realmente se desquadraron toda la parte de l'industria y el comercio.
Cela a grandement perturbé toute l'activité commerciale et industrielle de la région. Nous sommes entrés dans une phase de réajustement à marche forcée. Mais c'est vrai, partout dans le monde, des entreprises américaines qui avaient installé des usines ou des chaînes de production en Chine cherchent désormais des partenaires pour les installer ici, au Mexique.
Nathanaël Vitron, Natalia Olivares, Ciudad Juárez, RFI.
Nathanaël Vitran, qu'on retrouvera d'ici une heure dans le dossier du 9h. Il reviendra sur le bilan de la politique économique et commerciale du président Trump après 100 jours de sa prise de fonction à la Maison-Blanche. Allez, quittons-nous en musique avec la jeune chanteuse Marie-Flore. Le nouvel album de la Française est sorti ce vendredi. C'est son troisième et elle se livre sur son thème de prédilection, l'amour. Mais attention, pas l'amour parfait, mais plutôt ce qu'il en reste quand l'illusion s'efface, Edmond Sadaka.
S-ex-eco le score, si... Si je n'aime plus rien mais que toi je t'aime encore, à quoi ?
Marie-Flore s'était fait connaître en 2019 avec Braquage, un disque matiné de hip-hop qui avait comptabilisé des millions d'écoutes sur les plateformes numériques. Cette fois, la chanteuse nous entraîne dans un face-à-face amoureux entre caresses et coups bas, entre mélancolie et sarcasme, car c'est le thème de la rupture qui émaille ses 11 nouveaux titres.
Diable, se cacherait-il dans les détails ? Un peu comme nous deux pieds là sous la table.
Ce disque est un petit peu une sorte de CD-réalité, un peu comme la télé-réalité. J'adore explorer un petit peu les recoins, on va dire, plus sombres, qui sont l'attente, la frustration, aussi évidemment les joies du début et les désillusions, quoi. C'est quelque chose qu'on traverse tous.
Ah, maintenant, et puis tant pis. Si le temps fait que tu m'oublies.
Pour ex-aequo, la chanteuse trentenaire conserve sa pop, souvent incisive, qu'elle rehausse, cette fois-ci d'une riche orchestration. Elle a tout signé d'ailleurs, de la composition aux arrangements. Entre ballades et refrains entêtants, cet album porte aussi la patine du réalisateur Marlon Bay, qui a travaillé notamment avec Juliette Armanet ou Mathieu Chédid.
La seule chose que tu m'apportes, ce n'est pas rien, je te l'accorde.
Edmond Sadaka et la chanteuse Marie-Flore pour cette fin d'édition.
Et Grégoire Morelli pour le journal. Merci à vous, Grégoire. 8h13 à Paris. Dans 5 minutes, on parle état de la vaccination dans le monde avec notre invité international. Mais d'abord, le sport. Et à la une, le foot. Victor Missistrano, Liverpool retrouve le sommet du championnat d'Angleterre. Donc assuré de remporter la Premier League.
Et déjà l'heure de célébrer pour les Reds avec ce mythique You'll Never Walk Alone à Anfield. Les frissons, voilà. Mohamed Salah et ses coéquipiers n'avaient besoin que d'un nul contre Tottenham, mais pour que la fête soit totale, ils se sont largement imposés. 5 buts à 1 avec une 28e réalisation pour l'Égyptien, meilleur buteur et passeur du championnat. Il a grandement contribué donc au 20e titre de l'histoire du club, tout comme Ibrahima Konaté, le défenseur français qui revient sur cette journée qu'il n'oubliera jamais.
Dès l'arrivée au stade, en toute humilité, je savais qu'on allait gagner parce que c'était spécial. Ce qu'on ressentait, c'était inédit. Même les joueurs dans le bus, ils n'étaient même pas à leur place. On était tous debout en train de regarder ce que les fans y faisaient. Et encore plus aujourd'hui, il n'y a pas de mots pour décrire ce qui se passe. Même s'il reste quelques matchs, mais là on a pris le game et... Ah, c'est fini, hein.
Liverpool champion d'Angleterre donc pour la première fois depuis 2020. C'est fini donc pour City qui se consolera avec une finale de la Cup contre Crystal Palace. Manchester City, quadruple tenant du titre en Première Ligue, qui s'est donc qualifié en battant Nottingham Forest 2-0.
En France, l'Olympique de Marseille reprend la deuxième place de Ligue 1.
Après une période de doute, les Marseillais avaient passé une semaine en stage à Rome pour se ressourcer. Ça a plutôt bien fonctionné. Large succès 4-1 contre Brest hier au Vélodrome. Amine Gouiri a signé un triplé avec notamment un magnifique retourné acrobatique. L'international algérien sorti sous les ovations du public.
C'était important de gagner parce qu'on a commencé le match en étant quatrième. Et c'est vrai que ça fait pas plaisir. Donc on avait à cœur de gagner. Je pense qu'on a fait un très bon match et surtout on a gagné avec la manière. Franchement, c'est un stade, comme j'ai dit, hein, ça fait toujours plaisir de marquer et d'entendre son nom.
Et l'OM qui va repartir à Rome pour préparer la suite. Et justement, en Italie, l'AS Rome est allé battre l'Inter Milan hier 1-0. Conséquence, le tenant du titre laisse Naples prendre 3 points d'avance au classement. Le Napoli est vainqueur du Torino 2-0 grâce à un doublé de Scott McTominay. Et puis on connaît toujours en football l'affiche de la finale de la Ligue des Champions féminine. Vainqueur une nouvelle fois de Chelsea 4-1, le FC Barcelone va tenter de conserver son titre. Ce sera contre une autre équipe londonienne, Arsenal, les Anglaises qui ont créé l'exploit à Lyon. 4-1. Rendez-vous le 24 mai pour cette finale.
En cyclisme, une véritable sensation hier en Belgique lors de la course Liège-Bastogne-Liège.
Et oui, la Mauricienne Kim Lecourte a franchi la ligne d'arrivée en tête et elle devient donc la première cycliste africaine à remporter une classique européenne. Victoire au sprint, au nez et à la barbe des principales favorites. À 29 ans, Kim Lecourte tient là la plus grande victoire de sa carrière au terme d'une course où elle aura beaucoup souffert.
J'ai pas les mots, j'ai souffert un peu aujourd'hui avec la respiration, je pouvais pas respirer. J'ai lâché plusieurs fois, mais j'ai jamais lâché coup. J'ai crampé aussi quand j'ai commencé à sprinter, mais j'ai jamais abandonné le coup et j'arrive pas à croire. C'est fou.
Et dans la course masculine, victoire du favori, le champion du monde Tadej Pogačar, le Slovène, qui s'est offert un troisième Liège-Bastogne-Liège.
Victor Misistrano. RFI tout de suite, c'est notre rendez-vous aujourd'hui. L'économie, bonjour Stéphane Genest.
Bonjour Andréane.
On revient avec vous ce matin sur le coup d'envoi donné en fin de semaine dernière par le roi du Maroc aux travaux d'extension de la ligne de TGV marocaine. Aujourd'hui et depuis 2018, cette ligne, elle relie Tanger dans le nord du pays à Casablanca, plus au sud, sur la côte. Et une fois ces travaux terminés, la ligne s'étendra jusqu'à Marrakech. L'occasion pour nous, Stéphane, de se pencher un peu ce matin sur le sujet du train à grande vitesse sur le continent. S'il est opérationnel ce train au Maroc, d'autres pays sont aussi séduits par ce projet.
Oui, et hein, sans conteste, le Maroc est le pionnier africain dans ce domaine. Hein. Vous le disiez, voilà 7 ans que le TGV Al-Borak sillonne le nord du pays jusqu'à 320 km/h entre Tanger et Casablanca. Ligne construite en partenariat avec des acteurs français comme Alstom et la SNCF. L'année dernière, d'après l'ONCF, l'Office national des chemins de fer marocains, ce sont 5,5 millions de voyageurs qui ont pris ce train à grande vitesse. Cela pour un chiffre d'affaires de 780 millions de dirhams, ça représente tout de même un peu plus de 16% du chiffre de la compagnie nationale.
Et est-ce que le ferroviaire à grande vitesse en Afrique ne se limite qu'au Maroc ?
Alors à cette vitesse, oui, aucun train ne roule pour le moment à 320 km/h sur le continent. Et vous avez bien entendu... pour le moment, car différents projets de réseau ferroviaire intégrés à grande vitesse sont sur le point de voir le jour. L'Union africaine l'a d'ailleurs inscrit dans son agenda 2063 avec l'ambition de créer un maillage continental. Certes, 2063, c'est dans longtemps, mais un réseau de ce type visant à connecter toutes les capitales, ou du moins certaines, et les grands centres économiques du continent, eh bien Andréane, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais déjà, différents pays avancent vers la grande vitesse.
On imagine que vous avez quelques exemples à nous proposer.
Oui, citons déjà l'Égypte, très avancée dans cette ambition, avec 3 nouvelles lignes de train qui sont en cours de construction en partenariat avec l'allemand Siemens. Le pays entend relier toutes ses grandes villes, ports et zones industrielles jusqu'à 250 km/h, en Afrique subsaharienne, au Nigeria précisément, avec la ligne Kaduna-Abuja. Alors, on y roule moins vite, hein, 150 km/h. Tronçon qui est en service depuis 2016, financé en grande partie par la Chine. Et justement, en janvier dernier, la Banque de développement de Chine Chine a d'ailleurs annoncé l'octroi d'un prêt de 225 millions de dollars au gouvernement nigérian pour prolonger cette ligne de Kaduna à Kano, au nord. Et puis un dernier exemple, l'Afrique du Sud, le pays veut restructurer son système ferroviaire avec un objectif, intégrer le train à grande vitesse dans une réforme plus large qui peine aujourd'hui à être concrète.
Car le continent change son regard sur le train.
Oui, historiquement, le train était utilisé pour le transport de matières premières. L'idée à présent, c'est de favoriser l'intégration économique de régions entières, se déplacer vite, voire très vite, bien et en sécurité. Voilà l'ambition de beaucoup de pays. Car derrière ces projets se cache un levier stratégique pour le développement économique, la transition écologique du continent ou encore l'intégration territoriale.
Merci Stéphane Genest, 8h20 à Paris. L'heure de retrouver notre grand invité. Ce matin, elle est en ligne de Genève avec Arnaud Pontus à l'occasion de la Semaine mondiale de la vaccination. Marie-Ange Saraka-Yao, directrice générale de la mobilisation des ressources et de la croissance au sein de Gavi, l'Alliance du vaccin.
Bonjour Marie-Ange Saraka-Yao.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct ce matin. Nous sommes donc au cœur de la Semaine mondiale de la vaccination. Et à cette occasion, l'Organisation mondiale de la santé et votre alliance, Gavi, appellent les parents, le grand public et les responsables politiques à renforcer leur soutien à la vaccination. Est-ce que ça veut dire que vous sentez que ce soutien est en train de s'affaiblir ?
Écoutez, la première chose déjà, c'est que en fait, c'est surtout pour montrer, en fait, féliciter les pays, surtout en Afrique, pour les efforts faits dans la vaccination. Et on voit vraiment que on a une augmentation du taux de base de vaccination de 2%. Donc, le taux de base en Afrique maintenant est de 74% de couverture vaccinale, ce qui est vraiment un très bon signe après la crise du Covid. Et on voit vraiment qu'il y a des pays qui ont vraiment fait de la vaccination le fer de lance. Mmh. On voit aussi évidemment qu'il y a eu des grandes avancées pour le vaccin, par exemple, contre le paludisme. On a 20 pays qui ont introduit, donc c'est la plus rapide introduction de vaccins dans l'histoire de Gavi en 25 ans.
Avec des vaccins qui sont très récents, effectivement, hein, les vaccins contre le paludisme.
Exactement, et le Mali a introduit la semaine dernière. Donc au total 20 pays. Donc la première chose, c'est d'abord vraiment encourager ces pays parce qu'on voit vraiment que la vaccination non seulement protège les enfants, mais c'est aussi évidemment un fer de lance dans la croissance économique. Ça, c'est très important. Au cours des 20 dernières années à Gavi, on a aidé le continent africain à introduire presque 500 à immuniser presque 500 millions d'enfants. Et donc ça, c'est presque donc la moitié, puisqu'on a en 20 ans, on a aidé la vaccination d'un milliard. Mais évidemment, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment des nouveaux vaccins. Donc on veut amener la science beaucoup plus rapidement et ces nouveaux vaccins dans les pays que l'on couvre en Asie et en Afrique. Et cette semaine, la vaccination, c'est aussi un plaidoyer pour continuer malgré les difficultés qu'il y a et évidemment aussi malgré les difficultés budgétaires et économiques.
Oui, alors venons-y aux difficultés budgétaires. La directrice de Gavi s'inquiète des efforts qui sont portés sur les budgets militaires aux dépens des investissements de santé. Ça veut dire que vos donateurs sont moins généreux aujourd'hui ?
Alors écoutez, on est en pleine phase de reconstitution. Donc le verdict, dis donc, ce sera le 25 juin. À Bruxelles, puisque notre conférence de reconstitution est parrainée par l'Union européenne.
Mais il y a bien des coupes budgétaires. Vous sentez bien que des coupes budgétaires
oui,
sont en vue.
Alors on sent en effet qu'il y a des choix budgétaires difficiles. Les coupes n'ont pas encore arrivé, ne sont oui. pas encore arrivées. Oui. On sent qu'il y a des choix budgétaires difficiles. Donc cette semaine, c'est aussi une semaine de plaidoyer pour rappeler aux pays l'efficacité, le retour sur investissement. Un dollar investi dans la vaccination, c'est 54 dollars de retour sur investissement.
Oui, alors expliquez-moi ça, là, parce que c'est une expression que vous employez souvent. Un dollar investi, 54 de retour
oui.
d'investissement. C'est-à-dire, comment
est-ce parce que quand on vaccine un enfant, donc on a moins de frais médicaux qui peuvent oui. être très importants dans les pays. On peut les enfants sont mieux à même d'aller à l'école, les parents sont ont moins de risques de ne pas aller travailler pour s'occuper des enfants. Donc quand on ajoute tous ces effets, tous ces bénéfices hein, qui sont calculés par des universités internationales oui. comme Johns Hopkins,
Donc
on
c'est
a,
du
on
plus.
Arrive à un retour
c'est du plus.
Ouais,
c'est
important, du plus. Ouais. Puisque en fait, ça permet aux gens d'être plus productifs pour le développement.
Oui. Marianne Saracayao, il y a un mois, le New York Times indiquait que le gouvernement américain voulait mettre fin à son soutien à Gavi, ce qui serait un coup très dur, hein, puisque à peu près, les États-Unis contribuent à hauteur de 15% de votre budget, plus d'1,5 milliard pour ce qui est la période de dollars, hein, pour la période 2026-2030. Est-ce que vous avez eu confirmation de ce désengagement?
Non, nous n'avons pas encore eu confirmation. Nous engageons, nous sommes très engagés avec le gouvernement américain. C'est un partenaire très important qui nous a soutenus depuis le début de Gavi.
Vous avez des discussions avec cette administration américaine depuis qu'il y a...
On a des discussions avec le Congrès qui a toujours été, qui est un Congrès bipartisan, qui a toujours donné un soutien bipartisan à Gavi et qui a d'ailleurs approuvé cette année l'allocation pour Gavi. Donc maintenant, c'est discuter avec la nouvelle administration, ce qui est un processus qu'on fait avec tous nos donateurs, expliquer notre cas, montrer qu'on est un modèle de développement différent. Je comprends qu'à des périodes budgétaires difficiles, les gouvernements, il ne s'agit pas de charité, c'est vraiment montrer que les pays eux-mêmes investissent. Ce qui est très intéressant dans le cas de Gavi, c'est que les pays investissent aussi. Et au cours des 20 ans, on a vu vraiment une croissance de la contribution des pays. Au départ, quand un donateur contribue à Gavi, sa contribution représentait 90% et les pays 10%. Aujourd'hui, c'est 40% par les pays. Donc, les pays africains, par exemple, ont déjà contribué près d'1 milliard en 20 ans.
Oui, oui.
Et dans notre période stratégique, la prochaine période, donc de 2026 à 2030, les pays vont contribuer près de 4 milliards, donc les pays récipiendaires.
Oui.
Donc,
vous nous confirmez, Marianne Saracayao, que si les États-Unis stoppaient leur soutien, ce serait très lourd, avec des conséquences très graves.
Et tout pays qui arrête son soutien maintenant aurait des conséquences graves. Il inclut les États-Unis, qui représentent 13%. C'est pour ça qu'il y a cette conférence donc, qui est menée par l'Union européenne. Donc, en fait, cet appel, c'est pas seulement aux États-Unis, c'est tout à nos partenaires
européens.
Oui, je comprends
bien, mais on a tous en tête ce que disait la directrice de Gavi il y a un mois, quand il y avait cette annonce, ou cette rumeur, disons. On disait qu'une suppression de l'aide américaine pourrait entraîner la mort de plus de 1,2 million enfants. On a ce chiffre en tête, forcément.
Bien sûr, ce sont des conséquences importantes. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment faire le plaidoyer, faire le cas, utiliser cette semaine pour tous nos donateurs, pour montrer en fait l'impact, le développement économique que ça apporte, et surtout que les pays eux-mêmes sont sur le chemin de leur propre indépendance vaccinale, si je peux dire comme ça, à la fois en contribuant. On les soutient aussi avec la production régionale de vaccins qui est très importante. Et en fait, c'est ça qui est important pour les investisseurs, de savoir que c'est pas un soutien éternel.
En un mot, car il nous reste quelques secondes, Marianne Saracayao, quelles sont les épidémies qui pourraient être aujourd'hui évitées si plus d'enfants étaient vaccinés?
Ah, beaucoup d'épidémies, puisque bon, on a vu qu'il y a une resurgence des épidémies de choléra dans le continent, surtout avec la crise climatique. Donc, c'est important de pouvoir avancer.
La rougeole aussi.
La rougeole, exactement, qui est très, très infectieuse. Et les épidémies qui pourraient encore arriver. Et ça, c'est l'avantage du vaccin, de pouvoir arrêter rapidement de protéger les enfants et les personnes avant qu'il y ait cette expansion. Donc, très important de continuer à se faire vacciner. Gavi gère le stock mondial de vaccins pour des vaccins comme Ebola et évidemment les vaccins qui sont sujets aux épidémies. Et l'idée, c'est de pouvoir continuer ce soutien. Donc, c'est aussi un appel aussi à ce qu'on appelle la sécurité sanitaire.
Oui, la sécurité sanitaire mondiale est en jeu, évidemment.
Voilà.
Merci beaucoup, Marianne Saracayao, d'avoir été en ligne de Genève avec nous ce matin sur RFI.
La directrice générale de la mobilisation des ressources et de la croissance au sein de Gavi, l'Alliance du vaccin. Elle répondait à Arnaud Pontus, entretien à retrouver en ligne RFI.fr.
L'exposition Mission Dakar Djibouti 1931-1933 contre-enquête jusqu'au 14 septembre au musée du Quai Branly Jacques Chirac explore l'une des missions ethnographiques les plus emblématiques et revisite les conditions de collecte et les récits de cette traversée de 14 pays africains. Ces contre-enquêtes interrogent les enjeux mémoriels et scientifiques. Mission Dakar Djibouti 1931-1933 contre-enquête à découvrir jusqu'au 14 septembre au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Plus d'informations sur quaibranly.fr en partenariat avec France Média Monde.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
vous êtes jeune diplômé, vous recherchez un emploi, posez toutes vos questions à nos spécialistes.
Demain,
comment lutter contre la pédocriminalité en ligne, un marché du sexe qui cible les enfants.
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 337 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.